Une femme de Maurice Leblanc. Première partie, chapitre 1. Le Monde, à Rouen, remarquait fort les assiduités de Robert Chalmin auprès de mademoiselle Lucie Ramel. De fait, à 3 bals successifs, il s'inscrivit lui-même sur son carnet pour plusieurs danses, la conduisit au buffet, politesse audacieuse, et trouva moyen de souper à ses côtés. Et il parlait tout bas, d'un air entendu, comme s'ils eussent eu quelque chose à se dire. En outre, un soir, au théâtre, il passa les entr'actes des Huguenots dans la loge de madame Ramel et de sa fille. Le Monde estima les fiançailles imminentes. Cette union ne lui déplaisait point. D'abord, elle réunissait les conditions requises. La différence d'âge réglementaire, l'égalité des fortunes et des situations sociales. Puis, elle attestait que chez lui, on s'épouse par caprice, au besoin. Il en savait gré aux deux jeunes gens et les couvait d'un œil attendri. Leur intrigue dénotait l'existence d'un sentiment joli, aimable, gracieux, non suspect d'exagération passionnée, ce qui eût paru choquant. C'était juste la dose de poésie permise, assez pour troubler de cœur, pas assez pour les bouleverser. On en causait beaucoup à la bourse, au palais, au cercle, au café, dans les salons surtout. Les visites du jour de l'an furent consacrées en grande partie à cette question palpitante. « Vous savez, c'est un mariage d'inclination !» s'écriaient ces dames d'une voix ravie, sans risquer toutefois le terme « amour », presque déplacé en semblables circonstances. Quelques mères, à la recherche d'un gendre, tentèrent bien d'interrompre ce concert d'éloges en insinuant « Il est fâcheux que cela traîne en longueur. La réputation de mademoiselle Ramel n'en peut que pâtir. » On étouffa leurs critiques. Les personnes censées colportaient « Qu'ils ne se pressent donc pas, ils ne seront que trop tôt aux prises avec les réalités de la vie. » Au centre de cette agitation, monsieur et madame Bouju-Gavard ourdissaient leur plan. C'était eux, en effet, qui faisaient le mariage. Après la guerre, monsieur Bouju-Gavard, commissionnaire en rouennerie, déclara qu'il accepterait volontiers un successeur, son fils Paul se destinant au barreau. Il avait une 50aine d'années, des cheveux d'un beau blanc, une moustache d'un noir équivoque et une mise soignée. Il courait les demoiselles de magasin, ce dont personne ne se doutait, sauf sa femme. Le ménage s'entendait néanmoins. Madame Bouju-Gavard, ayant renoncé depuis longtemps à une lutte impossible, souffrait de son abandon, sans récriminer. Elle méprisait son mari, mais appréciait ses qualités solides, sa tenue correcte, son tact en public. Puis une pitié sereine et forte la portait à l'indulgence. Elle pardonnait et priait pour lui, l'époux et le père. Elle approuva sa résolution. Leur fortune, laborieusement gagnée, lui permettait ce repos. Il pouvait goûter maintenant le fruit de son travail. C'est alors que Robert Chalmin se présenta. Il avait de l'argent. Il plut. Les pourparlers commencèrent. Ils aboutirent rapidement. « Hélas !» s'écria-t-il un soir à table avec une moue comique. « Les rêves ne se réalisent pas toujours. Que de fois, en 10 ans de désœuvrement, me suis-je dit « Quand j'en aurai assez d'être célibataire, je chercherai une industrie quelconque dont le chef est une fille, j'épouserai la fille et je ne paierai rien. » Et justement, vous n'avez qu'un fils, je ne puis pourtant pas l'épouser. On rit. Mais madame Bouju-Gavard demanda d'une voix grave « Ils sont sérieux, vos projets de mariage ?»« Ah oui, J'en suis là de mon appartement de garçon et de la nourriture de restaurant et du feu qui ne marche pas et de la lampe qui s'éteint. Une sœur mariée à Lisieux, voilà toute ma famille. J'en veux davantage. » Alors elle affirma, « Eh bien, travaillez, prouvez que vous êtes capable de diriger votre affaire, et je vous en dénicherai, moi, une femme. » Elle avait une voix très persuasive, un visage triste qui inspirait de la pitié, des yeux calmes qui donnaient confiance, et les restes d'une beauté et d'une taille célèbres. Robert, convaincu, signa. Aussitôt elle se mit à l'étudier pour savoir ce qui lui convenait. C'était un grand garçon, mince, trop grand et trop mince, d'aspect dégingandé, de tournure peu élégante. Ses hautes jambes paraissaient molles, d'une mollesse de chiff. Sa figure pâle et fine indiquait de la douceur. D'ailleurs, à la longue, de l'examen minutieux auquel elle le soumit, ce fut ce trait principal qui se dégagea, une mansuétude extrême, une bonté naïve. Il riait aisément et franchement, il s'amusait d'un rien. Elle s'enquit de son passé. Élevée dans des principes religieux et dans l'obéissance aux règles de morale les plus austères, Chalmin eut le malheur, à sa majorité, de perdre ses parents. Privé de direction, il connut de jeunes oisifs dont il partagea les plaisirs et les débauches. Mais pendant cette période, il garda, malgré tout, le respect de soi-même. Il n'afficha pas ses maîtresses, subvint à leurs besoins sans prodigalité, ne s'attacha jamais à l'une d'elles et ne convoita pas la femme d'autrui. La médisance ne pouvait donc l'accuser d'aucune compromission, ni associer à son nom le souvenir d'aucun scandale. Ses camarades l'aimaient, le monde l'affectionnait. Il valsait bien, parlait à sa danseuse, jouait passablement du piano et animait les fins de bal. On le tenait pour spirituel. En résumé, elle le jugea tendre, loyal, assez ignorant, superficiel et sympathique. Munie de ses notes, elle partit en chasse. Robert, désireux de se libérer vis-à-vis de M. Bouju-Gavard, réclamait simplement une dot liquide. Elle, plus ambitieuse, prétendait joindre à la fortune une physionomie avenante et des manières distinguées. Aussi, ses investigations demeuraient sans résultat. Robert l'entaquinait. « Personne n'est digne de moi. Il y a de quoi être fier. » « Soyez modeste, disait-elle. Un homme fait toujours un mari passable, mais la base du ménage, c'est la femme. Je la veux donc telle que vous n'ayez jamais rien à me reprocher. » Enfin, elle reçut une lettre de Dieppe, Madame Ramel, une amie de jeunesse qu'elle revoyait chaque été, annonçait qu'après la saison, elle se fixerait à Rouen pour y produire sa fille. Une idée l'illumina. Lucie Ramel satisfaisait à toutes les exigences. L'habitude de la considérer comme une enfant l'empêchait d'y songer. Maintenant, elle se rappelait sa propre surprise lors de son dernier séjour au bord de la mer. Elle avait laissé l'année précédente une gamine. Elle retrouvait une petite femme réservée, travailleuse, d'allure discrète. Quelle garantie d'honorabilité fournissait en outre un tel mariage? Tout au plus, aurait-on pu relever certains bruits relatifs aux mœurs légères de M. Ramel. Mais, heureusement, il était mort pendant la guerre des conséquences d'une indigestion. Et Lucie portait la seule empreinte de Mme Ramel, une femme droite et courageuse, une femme de devoir. Noble exemple pour une fille qu'une telle mère. Donc, d'ores et déjà, Lucie réunissait cette triple sauvegarde, l'excellence de l'éducation, du milieu et des principes sucés. Restait le caractère. Elle avança son départ, et une fois à Dieppe, profitant des soucis qu'imposaient à Madame Ravel les préparatifs d'un déménagement, elle s'empara de Lucie, afin de l'observer à son aise. Elle ne recueillit que de vagues renseignements. La nature de Mademoiselle Ramel, assez compliquée, n'admettait pas de définition précise formulée à l'aide d'épithètes. Continuellement, Madame Bouju-Gavard se heurtait à des contradictions, la plupart, du reste, inhérentes à toute jeune fille. Pour ne pas s'avouer vaincue, elle s'empara de quelques aveux semés au hasard par Lucie, selon son humeur ou l'état actuel de ses nerfs, et lui accola cette mention « Une sentimentale, à qui le mariage rendrait l'équilibre. » Connaissant maintenant les deux parties intéressées, elle conclut à la nécessité de leur union. La tendresse de Robert assouvirait inévitablement les besoins poétiques de Lucie. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Cette constatation la combla de joie. Elle s'ouvrit de son projet à M. Bouju-Gavard. Il s'en enthousiasma. « Tu as mille fois raison, Mathilde. C'est leur bonheur à tous deux, ces enfants. Et j'en serai d'autant plus content que Lucie est ma filleule. » À son tour, il voulut confesser Mademoiselle Ramel. Il la prenait par le bras, l'entraînait au casino, sur la plage, sur la jetée. Sa tête imposante de vieux beau se donnait les airs fats d'un monsieur en bonne fortune. Il se penchait vers sa compagne, galant, empressé, la bouche souriante. Il l'aidait à mettre son vêtement, à rajuster sa voilette, et d'un ton paternel l'interrogeait en lui tapotant la main. « Eh bien, petite, quand me prieras-tu de te servir de témoin? As-tu l'intention de coiffer Sainte-Catherine? Que dirais-tu d'un joli brun, 28 ans et riche ?» Elle, intriguée, débitait ses rêves. Il variait chaque jour, ce qui déroutait l'ancien commerçant. Elle admirait le lendemain ce qu'elle dénigrait la veille, et elle se démentait très gravement avec l'aplomb d'une personne qui a beaucoup médité et dont l'opinion est fermement établie. « C'est une rouée » pensa-t-il, employant un mot quelconque pour expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Une après-midi, sur le galet, il aperçut son fils auprès d'une femme aux cheveux roux et aux lèvres peintes. Il examina Mademoiselle Ramel. Elle regardait aussi, et elle dit « Qui est-ce, cette dame, parrain ?»«
Une cousine, » répondit-il.
Au dîner, elle questionna Paul au sujet de cette nouvelle parente. « Se moque-t-elle de nous ? Est-elle sincère ?» se demandait M. Bouju-Gavard. Cette fois, elle lui parut plutôt naïve. Afin de concilier ces deux jugements, il en adopta un troisième, tout fait, celui de sa femme. Et son estime pour Mathilde s'en accrut. Elle l'a bien définie, c'est une sentimentale. Par une entente tacite, les époux complétèrent leur étude au point de vue physique. Comme Lucie prenait ses bains vers 9 heures, ils se levèrent un jour de grand matin et se rendirent au casino. Ils furent émerveillés. « La gaillarde !» murmura M. Bouju-Gavard. « Qui se serait imaginé ?» Ses mains tremblaient un peu, les veines de son front gonflèrent. Il ne manqua plus ce spectacle. Au mois de septembre, les dames Ramel s'installèrent à Rouen, rue de Crône. Une semaine après, un dimanche, les Bouju-Gavard ménageaient dans leur propriété de Croissé une entrevue aux deux jeunes gens. La route bordait la Seine. À travers la grille qui s'ouvrait entre deux gros piliers chargés de verdure, on apercevait une pelouse étroite et longue, encadrée de massifs d'arbres. Au milieu de cette pelouse, un énorme marronnier, orgueil des propriétaires, bouchait la vue. Au fond, s'étendait l'habitation, vieille bâtisse blanche, composée de pièces et de morceaux. Les présentations eurent lieu, puis on se mit à table. Tout de suite, la glace fut rompue. On se connaissait déjà si bien par les Bouju-Gavard. Robert, prévenu, fit beaucoup de frais et justifia sa renommée de causeur brillant.
Il raconta divers épisodes de la guerre avec une émotion qui empoigna ses dames et en même temps une verve gouailleuse qui sembla très forte. On prit le café dans une tonnelle, en remblai, au-dessus de la route, on dominait la scène. Les invités ne manquaient jamais de s'exclamer « C'est ravissant !» Chalmin s'acquitta de cette tâche. Tout bas, Lucie dit à son parrain « Est-ce votre beau brun de 28 ans ?» Elle se moquait gentiment. Il lui saisit les bras. « Curieuse, tu voudrais bien savoir. En tout cas, celui-ci, comment le trouves-tu »
« Bien haut sur pattes, » fit-elle en se dégageant.
Le temps était tiède. Les arbres avaient de jolis tons roux. Des voiles grises rasaient la Seine comme de grandes ailes d'oiseaux. Au-delà s'étalaient des prairies où des vaches remuaient. Des bois en masse sombre fermaient l'horizon. Les jambes croisées, la tête appuyée au dossier de son fauteuil en jonc, Chalmin sentait le charme des couleurs et cet apaisement de la nature qu'augmentait encore la coulée lente du fleuve et la petitesse des choses qui bougeaient. Il épia Lucie. Elle rêvait, la figure inerte, se garantissant du soleil sous une ombrelle à carreaux écossais. Elle était brune et de petite taille. Sa physionomie, un peu insignifiante au repos, avec son nez en l'air, sa bouche sans dessin précis, son regard sans éclat, prenait en souriant une certaine vivacité, due à la blancheur de ses dents et aux fossettes qui trouaient ses joues et son menton. La peau était mate, les lèvres rouges. Elle parut à Chalmin gracieuse et séduisante. Il distingua la finesse de ses attaches, la cambrure de son pied, la disposition symétrique de sa coiffure et la courbe parfaite des bandeaux noirs collés à son front. Elle portait une robe en toile mauve, de coupe médiocre, dont Robert, mauvais juge en élégance féminine, apprécia la simplicité et la modestie. « Elle doit être ordonnée, » pensa-t-il, et il se l'imagina femme d'intérieur, méthodique et soigneuse. Les hôtes proposèrent une promenade en bateau. Il fallut descendre un escalier boueux et traverser quelques mètres de vase en choisissant les gros cailloux. Chalmin, solidement arc-bouté, soutint ses dames. Le domestique s'empara des avirons et l'enfila du côté de la bouille. Robert avait pris place sur le même banc que Mademoiselle Ramel. Il voulait procéder à une enquête. Et il débuta. « Vous devez adorer les excursions en barque, mademoiselle. Cela vous rappelle votre pays, votre enfance, les grandes parties de pêche ?» Intimidée, elle dit « Oui, monsieur, je les adore. » Il continua « Est-ce que vous regrettez Dieppe ? Ce doit être bien triste. »«
Oh, très triste !» s'exclama-t-elle convaincue.
Il se mit à rire et elle rit aussi. Il poursuivit d'un ton confidentiel.
À Rouen, ce n'est pas folichon non plus. Cependant, cet hiver, on compte se distraire davantage. Madame Bouju-Gavard a de nombreuses relations et vous conduira dans le monde.
Et il ajouta, si toutefois vous aimez le monde. Comme elle ne répliquait pas, il dut insister.
« Car je suppose que vous l'aimez, c'est si naturel. »
Elle se souvint de quelques soirées ennuyeuses et guindées, et fut sur le point de répondre non. Mais elle craignit d'être ridicule en répudiant un plaisir qu'elle ignorait, et que lui, sans doute, ne dédaignait pas. Et elle repartit.
« Oui, beaucoup, monsieur. »«
Tant mieux, » s'écria-t-il. J'aurai l'honneur de vous y rencontrer à mon retour de voyage.
« Ah, vous vous en allez ?»
Il articula négligemment.
« Oui, une absence pour affaires. 6 semaines. 2 mois dans le Midi, en Corse. »
Et il lui lança.
« Cela vous plairait de voyager ?»«
Énormément, » dit-elle. mais elle avoua que sauf Dieppe, Rouen et quelques localités de Normandie, elle ne connaissait rien. Il y eut un nouvel accès de rire. « Franche et gaie !» décréta Robert. La barque glissait le long du Nil. Des bouquets de saules enlacés en masquaient l'intérieur. Des troncs compliqués et difformes hérissaient les contours. Dans la vase se tordaient des racines. Soudain, une éclaircie passa et l'on aperçut un coin d'herbe éclaboussé de soleil. Chalmin soupira. « Il ferait bon flâner là !» Elle dit « Ce serait délicieux !» Loin du courant, l'eau dormait par plaques lisses et profondes comme des miroirs, où le bleu du ciel se reflétait entre les silhouettes frêles des grands peupliers. Des bergeronnettes et des culs blancs sautillaient de pierre en pierre. Les rames secouaient des gouttelettes d'argent qui s'égrenaient avec un bruit frais. Chalmin reprit. « Comme tout est tranquille. Pour moi, rien ne vaut l'automne. » Et il exposa son plan de vie. 15 jours d'hiver à Paris, 2 mois d'été au bord de la mer, à Dieppe de préférence, et 1 mois, un bon mois de campagne. Elle hochait la tête. « Oui, voilà le rêve. » Cette parité de désir le pénétra d'une joie réelle, et presque à son insu, il dit « C'est meilleur à deux, ces sortes de rêves. » Elle rougit, perdit contenance et laissa traîner ses doigts gantés à la surface du fleuve. Le soir, interrogé par M. Bouju-Gavard, Robert prononça finement « Je suis enchanté. Je l'ai fait bavarder sans qu'elle s'en doutât. Et je sais maintenant un tas de choses intéressantes concernant ses goûts, ses besoins, le genre de vie qu'il lui faut. Ses moindres paroles indiquent une excellente éducation, un fond solide et une humeur égale. » Et à voix basse, il pria son interlocuteur de lui communiquer exactement la situation pécuniaire de ces dames. « Vous comprenez, on ne doit pas s'embarquer sans biscuits. » Chalmin s'éloignant, cette entrevue n'eut pas de résultats immédiats. Mais le lendemain même de son retour, il retrouvait la jeune fille chez les Bouju-Gavard et assistait à son entrée dans le monde. Il ne la quitta pas, non plus qu'au bal des Lefriches et à la soirée des La Salle. Il continuait auprès d'elle son système inquisiteur. À brûle-pourpoint, il lui décochait une demande, souvent indiscrète, et sur des sujets exigeant une étude complète de son propre caractère, des heures de méditation, un enchaînement de déductions rigoureuses, Lucie s'expliquait carrément, en quelques phrases brèves, qui en imposaient à Robert. Elle s'adjugeait telle qualité, se décernait tel défaut, et lui, enthousiasmé de cette franchise, accordait à ses réponses une valeur absolue, la même créance que l'on donne aux faits accomplis, indiscutable. Le monde, cependant, commençait à s'inquiéter. On harcelait de questions M. et Mme Bouju-Gavard. Ils se défendaient mollement. « Non, je vous assure qu'il n'y a rien. Et vous admettrez que s'il y avait quelque chose, nous serions les premiers à le savoir, puisqu'ils se sont connus chez nous. Mais vrai !» Il vivait au milieu de cette intrigue avec une ivresse infinie, presque physique chez lui, que troublait la présence de Lucie et l'idée de son union prochaine. Toute sentimentale chez Mathilde, qu'assiégeaient des souvenirs de même essence, les souvenirs mystérieux de son passé de femme. « C'est de l'amour, » se disait-elle, « de l'amour. » Et ce mot avait, sur ses lèvres, une saveur de mots défendus. Plusieurs fois, au moment du dîner, elle alla chercher les dames Ramel et fit prévenir Robert. De bonnes soirées s'écoulèrent ainsi, qu'ils tenaient secrètes, pour accroître leur plaisir. Au mois de janvier, à une kermesse organisée par les de Bourville, Robert eut le tort d'accaparer Lucie trop ostensiblement. Le monde s'impatienta. Des propos aigre-doux revinrent aux oreilles des Bouju-Gavard. Ils avertirent Chalmain.
« Que tardez-vous? Êtes-vous décidé? Si oui, agissez. Sinon, ne la compromettez pas. »
Robert parcourait la pièce où s'agitait ce grave débat. Son attitude marquait un effort de méditation. Sa vie se jouait en cette minute suprême. Le ménage l'observait, respectueux. Enfin, il s'écria, le geste résolu, « Eh bien, soit, agissez !» Le soir même, M. Bouju-Gavard écrivit à Mme Veuve Ramel. « Chère madame, j'aurai l'avantage de me présenter demain à votre domicile, vers 2 heures. » Et à l'heure fixée, en effet, M. Bouju-Gavard, muni de son habit, se dirigea vers la rue de Crône et fut introduit dans le salon. Au bout de quelques minutes, Mme Ramel entra. Elle tirait de son abord glacial et de ses gestes étriqués une renommée de distinction suprême. Son silence cachait sa nullité. Causant peu, elle semblait penser beaucoup, et ses rares paroles acquéraient une importance d'oracle. On la considérait comme une femme du plus haut mérite. Épouse fidèle, mère dévouée, chrétienne irréprochable, elle s'arrogeait le droit, en vertu de ses perfections, de juger les autres sévèrement. Les moindres faiblesses la trouvaient impitoyable. Elle s'admirait en sa fille et se savait gré des principes qu'elle lui avait inculqués. M. Bouju-Gavard fut catégorique. Il déboutonna son vêtement afin que l'aspect de son plastron empesé et de ses boutons en perles fines ajoutât à la solennité de sa mission. Et il déclara « Madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de Mademoiselle Lucie Ramel, votre fille, pour M. Robert Chalmain, mon ami et successeur. » Elle feignit un grand étonnement. « Vous me prenez au dépourvu. Je n'avais jamais songé à cette éventualité. Lucie est si jeune. Certes, je ne suis pas défavorable. » M. Bouju-Gavard l'interrompit. « Jouons cartes sur table. Robert ne veut pas s'occuper de l'argent. « Riche ou non, dit-il, elle me va comme elle est. « Que voulez-vous, il en est fou. « Mais moi, je raisonne de sang-froid et j'avance des chiffres en homme d'affaires. » Sur ce terrain, on s'entendit rapidement. Il revenait à Lucie de son pauvre père 150 000 francs. Chalmain apportait sa situation commerciale. Les deux positions se convenaient donc à merveille. « Quant au contrat, ajouta M. Bouju-Gavard, quoique Robert ne m'en ait pas ouvert la bouche, je puis affirmer qu'il préfère le régime de la communauté, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Lorsque tout fut conclu, ils consacrèrent une minute à exposer sommairement le caractère respectif des deux jeunes gens, puis une autre à célébrer l'inévitable béatitude qu'ils goûteraient ensemble. Il ne leur restait plus qu'à obtenir l'approbation de la principale intéressée. On la manda, et Mme Ramel lui dit gravement « Ma chère enfant, M. Chalmain nous fait l'honneur de te demander en mariage. Ne te presse pas, consulte-toi. » Debout, les yeux baissés, Lucie se taisait. Depuis longtemps préparée à cette démarche, elle n'éprouvait aucun plaisir, rien qu'une certaine vanité peut-être. Elle évoqua Robert. L'aimait-elle? Elle ne savait pas. L'aimait-il, lui? Elle ne savait pas. Tout cela était très obscur. Cependant, elle désirait se marier. Pourquoi? Elle ne savait pas non plus. De courtes visions d'avenir l'effleurèrent. Une promenade en bateau, sur un lac, le soir, avec Chalmain en face d'elle, et autour un paysage suisse. Puis un salon où elle se tenait, assise auprès de la lampe, et des dames en chapeau qui entraient et sortaient. Puis un enfant qui jouait à ses pieds, la chair rose, les joues bouffies. Ces vagues perspectives lui agréaient. Son cœur battit un peu plus vite. Mais comment exprimer son consentement? Elle se remémora des scènes analogues décrites dans les livres. Toutes se terminaient de manière identique. Et soudain, elle se jeta sur sa mère, d'un mouvement gauche, et se pelotonna contre elle en balbutiant « Comme tu voudras, maman, comme tu voudras !» Une émotion insurmontable envahit M. Bouju-Gavard. Il saisit la jeune fille entre ses bras. « Tu seras heureuse, gamine, je m'y engage !» Et il l'embrassa longuement, à plusieurs reprises. Le soir même, Robert fut admis à faire sa cour. Poussé par un besoin de cachotterie, par le désir de duper le monde et de tramer une sorte de complot, ils ne rendirent les fiançailles officielles qu'au mois de mars. Ce fut un soulagement général. Le monde était satisfait. « Vous savez, Monsieur Chalmin épouse Lucie Ramel. Ce sont les Bouju-Gavard qui font le mariage. Il paraît qu'ils s'adorent. Le jeune homme s'est montré d'un désintéressé. Il ne sait même pas le chiffre de la dot. » La nouvelle devenue publique, les fiancés évitèrent, selon la coutume, de se montrer en spectacle. Ces dames refusèrent toute invitation. Quotidiennement, Robert envoyait une gerbe de fleurs. Deux fois la semaine, c'était un bouquet d'une ordonnance irréprochable, avec des cercles concentriques de roses, d'œillets ou de camélias, le tout émergeant d'une collerette en papier blanc finement découpé. Ce bouquet, planté dans un vase de Chine, y attendait la venue de son successeur. Avant de le jeter, Lucie en détachait une fleur, qu'elle étalait sur un album consacré à cet usage. Chalmin n'embrassait la jeune fille qu'au début et à la fin de chaque visite, en présence de Madame Ramel. Un dimanche, cependant, au retour d'une excursion à l'abbaye de Saint-Georges, Lucie désira monter la côte à pied. Sa mère le lui permit et resta dans la voiture, qui disparut au premier tournant. Alors Robert se pencha vers sa fiancée et lui baisa la joue près des lèvres. Leurs bouches se frôlèrent. Un peu interdite, elle eut un mouvement de recul. Il la crut fâchée et s'excusa. D'ailleurs, lui-même s'en voulait. Mais elle, cette hardiesse, l'avait amusée. Elle eût accepté qu'il recommençât sa tentative, et souvent lui en offrit l'occasion. Il ne comprit pas, ce qui la froissa. Néanmoins, ils s'accordaient bien. Dans l'aménagement de leur futur domicile, boulevard Cauchoise, leur bonne entente se manifesta d'une façon continue. Si l'un d'eux choisissait un tapis, une tenture, un meuble, l'autre approuvait inévitablement. « Nous sommes toujours du même avis, mademoiselle et moi, n'est-ce pas ?» s'écriait Chalmin. Et il concluait de cette similitude de goût à la similitude de leur tempérament et de leur nature. Il s'en disait fort épris. Durant le dîner où il enterra sa vie de garçon, il ne put s'empêcher de le proclamer. « Mes chers amis, j'aime ma fiancée, et j'ai la certitude qu'elle m'aime aussi. » Sa verve, l'aisance de ses manières, inspirait à Lucie une grande admiration. Elle avait eu une enfance morne, entre une mère dévote et une vieille parente qui lui servait d'institutrice. Elle voyait peu son père, que retenait au dehors ses fonctions et ses habitudes dissipées. Une sympathie secrète la poussait vers lui cependant, mais les plaintes incessantes de Madame Ramel contre son mari refrénaient ce désir. Et l'enfant grandissait, sans amis, comprimé par les deux femmes qui la bourraient de maximes pieuses, de lectures édifiantes et de reproches perpétuels. Robert étant le premier homme qui put approcher d'elle, elle fut naturellement portée à le juger supérieur aux autres. Surtout, elle se sentait, pour celui qui l'arrachait à son milieu morose, des élans de reconnaissance qu'elle appelait volontiers de l'amour. En compensation à sa vie monotone, Elle s'imaginait un avenir gai, riant, libre. Ses rêves accroissaient la somme d'affection dont elle disposait, et Robert en recueillait le bénéfice. On célébra la cérémonie en juillet à l'église Saint-Vincent. Monsieur Bouju-Gavard conduisit la mariée à l'hôtel entre deux haies de curieux qui la dévisageaient à travers son voile. Chalmin accompagnait Madame Ramel. Un nombreux cortège suivait. Les dames portaient des robes somptueuses dont les queues balayaient le tapis. Les hommes avaient endossé le frac. Le monde était venu en foule, et il s'élevait de la nef un bourdonnement de voix et d'exclamations étouffées. La messe fut longue et solennelle. On remarqua les notes basses d'un chantre. Le curé dit quelques mots pleins de tact et de bon sens. Au départ, les deux époux se donnèrent le bras et redescendirent l'église lentement. Lucie, préoccupée de sa jupe sur laquelle avait marché Robert, baissait les yeux. On approuva son maintien modeste et son émotion visible. Chalmin parut pâle et distingué. « Ils vont très bien comme taille, » murmurait-on. Et tandis qu'il passait, on envia ce couple, si parfaitement assorti, qui réunissait les chances de félicité les plus durables. Dans le coupé des Bouju-Gavard, les mariés demeurèrent silencieux un instant, embarrassés l'un et l'autre. Leurs mains se joignirent comme pour témoigner de la tendresse que leurs lèvres ne savaient exprimer. Des minutes s'écoulèrent. Puis Chalmin attira sa femme contre sa poitrine et balbutia « Oh, chère petite, je sens, je suis sûre que vous me rendrez heureux. » Chapitre 2. Les affaires laissant peu de loisirs à Chalmin, le voyage de noces s'effectua en Bretagne. Ils trouvèrent les hôtels détestables, les communications difficiles, le pays maussade, les habitants arriérés. Si la gaieté n'avait pas été de rigueur, leur mécontentement se fut produit. Au bout de 15 jours, ils reprirent le train à Vannes sans pousser jusqu'à Nantes. La lecture de leur guide, en chemin de fer, compléta les renseignements qui leur manquaient et leur fournit des données précises sur les excursions qu'ils avaient négligées. Ils s'évitèrent ainsi, pour l'avenir, l'obligation douloureuse d'avouer au sujet de telles curiosités « Mais nous n'avons pas vu cela. » Ils rapportèrent de ce voyage 2 ou 3 souvenirs poétiques. Un clair de lune à Roscoff, un coucher de soleil à la pointe de Penmark, et à Locmariaquer, un déjeuner composé d'œufs durs et de mauvais cidre. Souvenir dont l'évocation leur causa longtemps des accès d'attendrissement. En outre, ils connurent un pays peu exploré et purent le décrire. « Je ne sais rien de comparable à la montée de la Rance de Saint-Malo à Dinan, » plaçait-il de temps à autre. L'éloge de cette vallée, l'aspect morne de Guingamp, la mélancolie de Brest par une pluie battante, la traversée du golfe de Douarnenez par une mer terrible, formèrent un fond de conversation respectable. Enfin, ils réunirent une 12 d'anecdotes concernant les habitants, leurs mœurs, leurs fêtes, leurs costumes. Ainsi, Robert les dessinait en quelques traits typiques. « Le breton, déclarait-il en homme qui a scrupuleusement observé, est un être poli, superstitieux, ignorant, sournois. » À leur retour, ils se rendirent à Dieppe, chez Madame Ramel, qui avait loué une villa rue Aguado. De courtes absences, entre 2 repas, permettaient à Robert de surveiller sa maison de commerce. L'été s'écoulait joyeusement. Avec les Bouju-Gavard et leur fils Paul, qui venait de terminer ses études, on organisa des pique-niques, où régna la plus franche animation. Puis, en octobre, le jeune ménage s'installa définitivement à Rouen, et la vie commune, le tête-à-tête de tous les jours et de toutes les minutes, commença. il n'y eut pas de choc. Après de légères disputes, impuissantes à dégénérer en scène, ils prirent conscience de leur bonne volonté mutuelle. La peur des querelles irréparables leur enseigna les concessions. Et d'eux-mêmes, sans effort, ils se débarrassèrent de tout ce qui pouvait compromettre leur parfaite harmonie. L'esprit conciliant et l'affection de Robert lui facilitèrent la tâche. Quant à Lucie, elle se laissait aller au charme de cette existence libre et mouvementée, en contraste si profond avec les mauvaises années de Dieppe. Puis, le frottement des rapports quotidiens développa en elle une grande souplesse, jusqu'ici latente. Elle la tenait de son père, un débauché, à qui son poste, grassement rétribué, d'administrateur dans une banque catholique, imposait une hypocrisie continue. Dès le début, elle usa de stratagèmes innocents pour sauvegarder la paix du foyer. Ainsi, durant la foire Saint-Romain, Robert l'avertit qu'une femme seule ne devait pas s'aventurer au-delà de la place Beauvoisine parmi les saltimbanques. Elle s'y risqua cependant. Une force la poussait, le besoin de braver un péril. Le soir, Chalmin lui dit « Je quitte à l'instant M. Bouju-Gavard. Il croit bien t'avoir rencontré auprès du cirque. » Dans sa voix perçait une contrariété. Elle craignit un reproche et répliqua « Il s'est trompé, ou tu as mal entendu, car je n'ai pas dépassé les boutiques. » Cette réponse ne lui coûta aucune peine. Même, elle s'en applaudit en constatant la mine satisfaite de Robert. Deux ou trois après-midi que Chalmin sacrifia suffirent au jeune couple pour rendre ses visites de noces. On donna plusieurs grands dîners en leur honneur. Ils y allaient, selon la règle, en toilette de gala. Ces repas étaient interminables. La conversation bruyante, les plaisanteries et le menu toujours identiques. Puis ces messieurs fumaient, ces dames papotaient et s'endormaient au salon. On jouait une partie d'écarté et l'on se séparait vers minuit. Lucie en revenait enthousiasmée. Elle avait de belles épaules que l'on citait déjà, et que Chalmin, par vanité, lui permettait de découvrir à sa guise. Et ce lui fut une jouissance inattendue d'étaler sa chair à l'admiration de tous. Une fois où elle avait échancré son corsage trop hardiment, M. Bouju-Gavard, l'entraînant dans un coin, la gronda avec bonhomie. « Tu as tort, petite. Ce n'est pas que ce ne soit agréable à lorgner, mais tu t'attireras des critiques. » En tout cas, pas sur leur forme. Là, il n'y a rien à relever, » ajouta-t-il en riant de son jeu de mots. Il se pencha, l'œil étincelant. « Sapristi, tu ne manques de rien, toi. Du reste, à Dieppe, au bain, j'ai deviné des rondeurs. » Recouvrant son sang-froid, il conclut. « N'importe, il ne faut pas prêter le flanc à la médisance. Tu es trop décolleté. « Tiens, ça descend jusque-là. » Et il toucha du doigt la poitrine de la jeune femme. Elle l'avait écoutée sans l'interrompre. Elle se savait bien faite, cependant n'en tirait aucune fatuité. Au compliment de M. Bouju-Gavard, les premiers qu'elle entendit, quelque chose d'inexprimable naquit en elle, l'orgueil encore inconscient de son corps. Et de ce germe confus monta comme une onde de bien-être qui gonfla ses veines. Elle eut un sourire hautain. Elle frappa du bout de son éventail les doigts de parrain, moins par pudeur que par suite de la sensation désagréable que lui causait ce contact. Étonné qu'elle ne se fâchât point, il l'examina, et il acquit, à l'inspection de ses yeux calmes, la certitude indiscutable qu'elle n'avait pas compris l'inconvenance de son geste. Cette candeur, sincère pourtant, le stupéfia. Un des grands plaisirs de Chalmin consistait à recevoir ses amis. Fier de sa femme et de leur intérieur coquet, il s'épanouissait d'aise quand il semblait apprécier Lucie et leur montrait sa maison de la cave au grenier. Cette maison, de belle et massive apparence, se trouvait à l'angle du boulevard et de la rue Stanislas Girardin. Une entrée spéciale sur cette rue desservait les bureaux et les magasins situés au fond d'une cour postérieure. Le rez-de-chaussée comprenait une salle à manger de style Henri II qui communiquait par une large baie avec un salon en damas rouge et or et par une petite porte avec un boudoir en reps bleu à l'usage de Lucie. Les chambres de maître occupaient le premier étage, les chambres de domestique le second. Les meubles coûtaient cher. Leur disposition, la couleur des rideaux, le drapé des tentures attestaient l'heureux choix d'un tapissier, et chez les Chalmin, un goût sûr et banal. Les fleurs et les bibelots manquaient. Des pendules ou des bronzes d'art, flanqués de candélabres, ornaient les cheminées. Ces réunions, souvent improvisées, amusaient Lucie. Elle simulait toujours l'effarement. « Excusez mon désordre, Robert ne m'avait pas prévenu. Vous en serez quitte pour un maigre repas. » Ses cheveux noirs, tordus à la hâte, sa bouche rouge, son cou, sa nuque et ses bras à moitié nus qui émergeaient d'un ample peignoir, lui donnaient l'aspect savoureux d'une femme à peine levée, surprise au milieu de sa toilette, la peau fraîche. En général, elle plaisait aux hommes, bien qu'elle eût peu d'entrain et d'à-propos. Mais il émanait de son être même une séduction dont il subissait l'influence. Et il sentait aussi qu'elle aimait leur société, leur approche, l'hommage délicat de leur présence auprès d'elle. Aux amis de Chalmin vint s'adjoindre une relation d'un agrément plus appréciable pour Lucie. C'est par les Bouju-Gavard qu'elle connut Madame Berchon, une jolie blonde, élégante, à qui l'on reprochait l'excentricité de sa toilette. Elles sympathisèrent. On se vit beaucoup. Les deux ménages réveillonnèrent ensemble au cabaret. Ils louaient des loges en commun et, au retour, soupaient chez l'un ou chez l'autre. Ces dames en vinrent rapidement aux confidences. Henriette Berchon, d'ailleurs, avait des crises d'expansion telles qu'elle livrait ses secrets en bloc, au moindre encouragement. Lucie, plus renfermée, éprouva néanmoins le besoin de découvrir une partie de son âme. Après quelques entrevues insignifiantes, où chacune se montra comme il lui convint, elles exposèrent, d'abord timidement, puis sans réticence, les mystères de leur intimité conjugale. Mariée depuis 3 ans, Henriette avoua un commencement de lassitude. Elle vanta cependant les qualités de M. Berchon et se décerna un tempérament remarquable. Lucie fut embarrassée. Elle n'avait pas une idée très nette de ces questions. Sa chair un peu indolente s'éveillait mal au désir. Puis Robert, d'une complexion également paisible, n'avait su lui révéler la vie d'essence. Une régularité méthodique présidait à leurs caresses. Aussi ne leur accordait-elle qu'une valeur secondaire et des réflexions espacées. Le bavardage d'Henriette lui fit pressentir son ignorance. Elle en eut honte. « Moi, dit-elle, ça me surexcite au point que Robert en est effrayé. Je me raidis, ma gorge se contracte et je ne peux plus émettre un son. » Ses lèvres distillèrent ce mensonge sans effort. La curiosité de son amie l'en rémunéra, et elle enjoliva son histoire de détails nombreux et décisifs. Henriette, vaincue, réduite au rang d'élève, parla de certains raffinements qu'elle avouait d'ailleurs ne point connaître, Monsieur Berchon les jugeant contraires à la dignité du mariage. « Quand on y a goûté, paraît-il, « le reste est bien fade, n'est-ce pas ?»« Oh, bien fade !» répéta Lucie interloquée. Elle eut néanmoins l'aplomb de sourire et de continuer, l'air entendu. « On voit bien que vous ne savez pas... » L'autre, humilié, voulut des détails. Mais Madame Chalmin fut inflexible.
Non, non, cela regarde votre mari, c'est une trop grande responsabilité. »
Lucie conserva longtemps de cet entretien une inquiétude sourde.
Quel raffinement! Pourquoi Robert ne les lui enseignait-il pas?
Afin de l'y contraindre et de se prouver ainsi qu'elle n'avait pas trompé Henriette, elle feignit des ardeurs excessives. Même elle joua l'évanouissement.
Affolée, Chalmin prévint le docteur qui conseilla la modération.
Elle n'en poursuivit pas moins son rôle de passionnée. Métamorphose qui enchantait Robert. Il en attribua tout le mérite à sa persévérance, à son tact, à son horreur de la brusquerie. Il ne put se retenir de complimenter sa femme.
« Dis donc, chérie, je crois que nous y mordons.
En vérité, je ne te supposais pas susceptible de tels emportements. » L'aisance avec laquelle elle dupait Chalmin la confondait.
« Il ne manque pourtant pas, se disait-elle, d'indices capables de guider un homme expérimenté. »
L'aveuglement de son mari lui suggéra quelque dédain et la conduisit au mensonge en d'autres circonstances. Robert avait de la religion. Il pensait bien et pratiquait. Non qu'il eût jamais approfondi cette matière, mais il estimait indispensable la croyance aux traditions de nos aïeux et communiait une fois l'an.
« Seulement, déclarait-il, ce qui suffit à l'homme ne suffit pas à l'épouse. »
Et il avait obtenu de la sienne qu'elle remplît également ses devoirs aux fêtes de Noël, ce dont elle s'était acquittée sans conviction. Avide d'indépendance depuis son affranchissement, elle voulait se libérer, femme, de toutes les tâches ennuyeuses qu'elle subissait, jeune fille, sous la tutelle de sa mère. La dévotion étroite de Madame Ramel, esclave des moindres règles prescrites, jeûne, retraite, pèlerinage, vêpres, loin d'induire Lucie en piété, l'avait au contraire prédisposée à la révolte. D'esprit trop restreint pour envisager la religion en dehors de ses cultes, elle la considérait uniquement comme la corvée la plus insupportable de son passé. Et de celle-là surtout, elle tenait à se défaire. Quand vint la semaine sainte, Robert lui dit
« Tu penses à communier, n'est-ce pas, chérie ?»
Elle répliqua, sincèrement, « Oui, je vais m'en occuper. » En effet, le mardi de Pâques, au soir, elle franchit la porte de Saint-Vincent. De nombreux fidèles stationnaient, agenouillés autour du confessionnal. Ses lèvres ébauchèrent une prière, et elle attendit. Du temps s'écoula. La foule des fervents diminuait à peine. Elle regarda sa montre. Elle marquait 7 heures. Alors, comme son tour tardait, elle s'en alla.
« Je te demande pardon, » dit-elle à Robert. « J'arrive de l'église, et il y avait un monde fou. »
Il sourit affectueusement. « Donc tu es en état de grâce. » Ce fut presque malgré elle, sans songer aux conséquences fâcheuses où cela l'entraînerait, qu'elle affirma « Oui, c'est pour demain. » Tout de suite, elle regretta sa réponse et résolut de se confesser dès le matin avant la messe. Mais les procédés respectueux de son mari atténuèrent son repentir. Il affectait une politesse attendrie, évitait tout propos qui pût l'offusquer, et quand elle se déshabilla, tourna scrupuleusement la tête. Un baiser au front, sur les cheveux, clôtura la journée. Ses manières finirent par impressionner Lucie, et elle s'endormit, l'âme légère, purifiée, comme si réellement l'absolution lui lavait de ses tâches. Toutefois, le lendemain, elle n'approcha pas de la sainte table. Robert n'en sut rien. Il sortait toujours beaucoup. Ils étendirent ainsi le cercle de leurs relations, et, désireux de rendre des politesses, ils remplacèrent les grands dîners par des thés, sans aucune cérémonie. Cette innovation d'un jeune ménage que la coutume dispensait de réceptions trop coûteuses sembla fort originale. Lucie présidait avec grâce. On comparait ses allures simples et sa mise médiocre à ce qu'on appelait le mauvais genre et l'accoutrement tapageur de Madame Berchon. Pour celle-ci, le monde était impitoyable, en haine de son élégance et de sa distinction naturelle. Lucie, elle, recueillait les sympathies générales. On approuvait sa tenue décente au milieu des hommes. Elle les regardait bien en face, mais d'un regard modeste, exempte de provocation. Elle riait discrètement et prenait de petites mines honteuses et comiques aux grivoiseries qu'on lui glissait. Le plus souvent, d'ailleurs, elle n'y entendait rien. « Tu as l'air d'une ingénue, » disait M. Bouju-Gavard. Et persuadé au fond de ce qu'il avançait en plaisantant, il se permettait de menues privautés dont elle ne se souciait point. L'après-midi, elle se promenait, soit avec sa mère, soit avec Madame Bouju-Gavard, rarement avec Henriette, suivant la prière de Chalmin. « Chez toi ou chez elle, voyez-vous tant que vous voudrez, mais en public et sans moi, cela peut te faire du tort. » Quand elle la rencontrait, elle n'en parlait pas à son mari. Dans la rue, elle portait des chapeaux fermés, des robes et des manteaux de teintes sombres. Elle passait inaperçue. En avril, Madame Chalmin annonça qu'elle se croyait enceinte. Robert manifesta une joie bruyante. Lucie ne savait trop ce qu'elle ressentait. Devait-elle se réjouir ou se tourmenter? Tantôt la présence de cet être encombrait son avenir, d'autres fois, au contraire, le parait de couleurs plus gaies et plus chaudes. Souvent, l'appréhension du dénouement lui serra le cœur. Mais une obsession la dominait. Resterait-elle abîmée? Depuis quelque temps, le germe d'orgueil qu'avait déposé les flagorneries de M. Bouju-Gavard et vivifié deux ou trois exclamations de Chalmin, peu enclin cependant à l'enthousiasme, ce germe grandissait et acquérait dans l'ensemble de ses pensées une importance notable. Elle s'admirait. Chaque matin, au seau du lit, attifée de velours et de soie, elle se plantait devant son armoire à glace. Là, elle arrangeait les étoffes de façon à découvrir tel coin de sa chair, puis elle en changeait la disposition et mettait en lumière telle autre courbe. Puis, soudain, tous les voiles tombant, elle se contemplait avec une extase dans les yeux. D'une beauté de formes indéniable, elle s'abusait néanmoins, ainsi que toutes les femmes, sur ses perfections. Comme elle, elle reconnaissait les points faibles de son visage, mais non ceux de son corps. Les épaules, superbes, manquaient encore d'ampleur. Les seins, fermes et de lignes exquises, étaient irréprochables. Le défaut le plus grave consistait dans des hanches trop grêles et des jambes un peu longues. La taille, même privée de corset, conservait une finesse peut-être exagérée. Elle s'habillait ensuite lentement, à regret. Or, qu'adviendrait-il de ce chef-d'œuvre, comme elle l'appelait tout bas? Garderait-il sa pureté impeccable après les fatigues de la grossesse et l'épreuve terrible de l'enfantement? Ce doute lui infligea d'amères angoisses et des heures d'insomnie. Vite déformée, elle ne sortit plus. Elle s'absorbait en un chagrin croissant. Son ventre la terrifiait. Elle ne pouvait s'imaginer qu'il revint à ses proportions primitives. Cependant, le petit être s'agitait en elle. Au premier coup de pied, elle le détesta. N'était-il point cause de son mal? Puis peu à peu, quand elle distingua les battements du cœur, des choses nouvelles surgirent de son âme de créatrice. Elle se mit à penser doucement à ce morceau de vie qui se dégageait de sa propre vie. Des rêves délicieux la consolèrent de sa peine. Des gestes vagues de bras inhabiles, des essais de sourire, des balbutiements drôles, hantèrent ses songeries. toute sa tendresse allait vers celui qui devait naître. La délivrance eut lieu au mois d'octobre. Ce fut un fils. Ils l'appelèrent René. Chapitre 3. L'enfant, de santé chancelante, vécut grâce à l'énergie de sa mère. 18 mois s'écoulèrent qu'elle lui consacra entièrement. Obligée de renvoyer une première nourrice qui manquait de lait, elle en engagea une autre dont l'indolence faillit souvent nuire aux petits. Durant des semaines, elle dut se relever 2 et 3 fois la nuit, tirer cette femme de son sommeil et lui tendre l'enfant trop faible pour réclamer le sein. Elle veillait à tout. Chaque matin, elle pesait le bébé et inscrivait sur un carnet l'augmentation de poids, ou même la diminution. Ce dernier cas, heureusement rare, la désespérait. Également, elle le pesait avant et après chaque tétée, et vérifiait ainsi ce qu'il absorbait. Peut-être apportait-elle à ces détails un peu d'ostentation. Son instinct la poussait à exagérer son rôle, afin de provoquer les éloges que méritent l'abnégation et la persévérance. Mais aussi, sa maternité s'exaspérait dans cette lutte contre la grande ennemie. Une imprudence pouvait tout compromettre. Cette menace continue la tenait en haleine. Quand le petit devint de tempérament plus résistant, la passion de la mère, moins fréquemment à l'épreuve, se modéra. Elle eut la chance de découvrir une bonne dévouée. Dès lors, sa vigilance put se relâcher. Son cerveau ne se concentra plus sur un unique souci. Une à une, des pensées étrangères l'envahirent.